Allez, c'est parti, on est chaud pour la matinale de l'Académie ESG.
Décollage.
Direction les étoiles avec la matinale de Radio Campus.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il est 7h et vous écoutez comme chaque matin la matinale de Radio Campus, préparée et animée par les étudiants de l'Académie ESG Lille. Je suis Naël Makhzoum, votre animateur du jour, et je vous souhaite la bienvenue sur Radio Campus. Vous pouvez nous écouter en DAB+, dans l'ensemble de la métropole lilloise, sur la fréquence 106.6 FM, ou bien encore partout ailleurs sur le site internet www.campuslille.com. L'intégralité de cette émission sera d'ailleurs à retrouver en podcast à cette adresse. Aujourd'hui, nous vous proposons un voyage hors du temps, puisque nous allons aborder le thème de la conquête spatiale. Vivez donc avec nous ce voyage exclusif en embarquant à bord de la fusée Radio Campus à destination de l'infini. Des étoiles les plus proches, observables de vos propres yeux, aux planètes les plus reculées de notre galaxie, vous allez en prendre plein les oreilles avec nous jusqu'à 8 heures. Notre équipage d'astronautes surentraînés prendra d'abord le départ avec les deux chefs d'équipe à bord, Adrien Leroux, le secrétaire de rédaction, et Éloi Touau, son adjoint à la réalisation technique. Puis, une fois arrivé à la Station Spatiale Internationale, notre navette se complétera avec l'ensemble de ses membres pour démarrer notre conquête du jour. Ainsi, nous récupérerons Anaïs Lafosse, qui nous expliquera en quoi l'espace est une source d'inspiration pour de nombreux rappeurs. Depuis sa capsule, Juliette Le Chevalier vous a interrogé sur vos connaissances sur l'espace. Théo Varnier s'est entretenu avec son invité du jour. Mathis Chariot reviendra sur les conflits et enjeux internationaux de la conquête spatiale. Thomas Fraisse reviendra, lui, sur le premier voyage d'un être vivant dans l'espace. Et enfin, Marius Veiro nous donnera les œuvres à ne pas manquer pendant ce confinement. Un magnifique programme, donc, vous l'aurez compris. Et tout de suite, on démarre les réacteurs et on entre dans le vif du sujet avec Anaïs Lafosse, qui aborde la fascination des rappeurs pour l'espace. Entre albums, clins d'œil, son punchline, vous allez voir que l'inspiration ne manque pas.
Quoi ? Qu'est-ce que vous dites ? Moi, sur la Lune, avec vous ? Mais ma parole, mille savants, vous travaillez de l'électron. Sur la Lune, jamais je ne mettrai un seul pied, entendez-vous, dans votre satanée fusée de tonnerre de presse.
C'est l'heure de la chronique musico-spatiale sur Radio Campus.
Bonjour à tous et bonjour à toutes. Et si on parlait d'espace et de rap ? Oui, les deux sont très bien capables de se marier. Les rappeurs ne parlent pas que de leur vie de quartier ou de drogue. Ils ont aussi une passion, une fascination pour l'espace, les étoiles. L'ancien duo, Lunatique, dont faisait partie Booba, est une référence à la Lune, assez explicite. Le nom du dernier projet des Nekfeu, tant qu'à lui, s'appelle Les Étoiles Vagabondes. Il y fait des références au ciel avec le titre Ciel Noir, ou dans le titre Pixel, il dit « Il y a quelques pixels en trop dans le ciel ». Le rappeur, parisien, se pose aussi la question suivante. On dit l'univers infini, on dit aussi qu'il s'étend, alors dans quoi s'étend-il ? Dans à l'unisson. Je vous avoue que je n'ai pas la réponse à cette question. Toujours en parlant de l'univers, Nekfeu, sur son album Les Étoiles Vagabondes, a un titre sobrement intitulé Dans l'univers. Il est en featuring avec Vanessa Paradis. Ce son se veut être un son d'amour, très calme et très reposant, qui reflète une ambiance assez spatiale, assez lunaire, qui nous donne envie de changer d'espace et qui nous donne envie d'aller découvrir l'espace. Mais pour passer à une référence évidente dans son album Cyborg et sur le titre Saturne, il dit dans le refrain « Je veux faire le tour de ma planète comme les anneaux de Saturne. » Et oui, c'est bien connu, Saturne a des anneaux qui tournent autour d'elle. Assez parlé de Nekfeu, on peut aussi nommer des artistes comme PNL avec un titre comme Uranus qui se veut refléter une ambiance spatiale. On peut aussi noter cette référence d'Ademo sur le titre Oh là là, où il dit « Je suis seul sur ma planète » tandis que NOS, son frère, se tourne du côté des étoiles avec cette phrase sur le titre Bambina, je cite « Je suis sur le cul d'une étoile filante, pas ce vœu, je fais le bilan. » C'est bien connu, lorsqu'on voit une étoile filante, passer, on fait un vœu. Mais ce dernier est sur cette étoile, il ne peut donc pas réaliser de vœux malheureusement. Comment parler d'espace et de rap et ne pas citer Jules, autrement appelé l'OVNI, comme un extraterrestre. Toutes ces pochettes d'albums tournent autour de ce thème. Après tout, ces derniers font aussi partie de la culture autour de l'espace. Pour passer à un côté plus visuel, On peut parler du clip « Moi Kamoun » de Kalash en featuring avec Damso, qui cumule actuellement 257 millions de vues sur YouTube. L'ambiance, captée par les images, est bien lunaire. Enfin, on peut parler de l'un des projets de Vald, une pochette qui montre un vaisseau spatial dans l'espace. Le projet est intitulé NQNT-33, qui rappelle forcément le nom du robot de Star Wars R2-D2. Le rap regorge de références plus ou moins subtiles à tout ce qui est lié à l'espace. PNL, Vald, Jul ou encore Damso, tous ces rappeurs s'inspirent de l'espace comme d'autres que je n'ai pu citer. Cet univers est une vraie source de création importante pour les artistes. Je ne peux que vous inviter à aller les écouter. C'était Anaïs Lafosse pour Radio Campus et je vous remercie de votre attention.
Merci Anaïs, et justement pour se mettre dans l'ambiance spatiale, on écoute Day One de Hans Zimmer, connu bien sûr grâce au film Interstellar. Vous êtes bien dans la navette Radio Campus, matricule 106.6 FM à suivre en DAB+, dans l'ensemble de la métropole lilloise ou bien partout ailleurs sur internet et le site www.campuslille.com. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour parler du thème de la conquête spatiale. Mais d'ailleurs, qui n'a jamais rêvé d'aller dans l'espace, de poser un pied sur la Lune ou sur Mars et savoir ce qui se passe réellement ailleurs, le voir de ses propres yeux? Ce rêve que chaque être humain a forcément eu à un moment de sa vie, quelques rares élus ont eu la chance de pouvoir le réaliser. Ce sont les astronautes. Mais puisqu'il en existe, cela veut donc dire qu'il est possible de le devenir, qu'il existe une voie, des possibilités pour atteindre ce Graal. Alors aujourd'hui, avis à tous les rêveurs, je vais vous apprendre à devenir un astronaute.
Vous écoutez Radio Campus 106.6 FM. C'est l'heure de la chronique orientation.
Le métier de spationaute fait rêver, mais c'est une profession à part. Ainsi, pas d'études ou de formation spécifiques pour y arriver, mais des concours. Ceux-ci peuvent être organisés par l'ESA, l'Agence spatiale européenne, ou la NASA, l'agence américaine. Si vous nous écoutez sur Radio Campus et que vous voudriez tenter votre chance, il faudrait alors vous tourner vers le centre de formation de l'ESA, basé à Cologne. Mais attention, ne deviens pas astronaute qui veut. Sans vouloir vous décourager, seules 500 personnes environ ont pu se rendre dans l'espace, et cela en 60 ans. Mais qu'importe, si vous êtes prêt à franchir ce parcours semé d'embûches, ou bien simplement vous êtes curieux, eh bien voici les critères de sélection. D'un point de vue physique, d'abord, il faut avoir entre 27 et 37 ans, mesurer d'1m55 à 1m90 et obtenir un certificat médical un peu particulier qui doit vous être délivré par un médecin examinateur du personnel aéronautique et agréé par les autorités médicales de l'aviation. Ça, c'est juste pour la condition physique pure et dure qui doit être au-dessus des normes. Mais un astronaute, c'est à la fois un corps d'athlète et aussi une tête bien faite et bien pleine. Et même si je vous ai dit qu'il n'y avait pas de formation spécifique et qu'en théorie tout le monde peut tenter sa chance, il faut quand même justifier d'un certain nombre de prérequis. Au moins 5 ans d'études après le bac et surtout un bon bagage de connaissances scientifiques en poche. C'est d'ailleurs la clé de voûte de votre candidature, avoir une intelligence, comme un physique, au-dessus de la moyenne. En effet, il vous faudra avoir d'excellentes notions en sciences, mais aussi en langue, puisque si la seule maîtrise de l'anglais est obligatoire, être polyglotte est là aussi un indispensable. Vous serez amené à côtoyer des gens de toute nationalité et à travailler en équipe avec eux, ce qui nécessite, au-delà des capacités linguistiques, de véritables qualités relationnelles. Et ce n'est pas fini, loin de là. En plus de toute cette théorie, vous devrez aussi maîtriser de nombreux aspects techniques, mécaniques ou encore informatiques. Je n'oublie pas non plus la petite cerise sur le gâteau, à savoir justifier d'au moins 1000 heures de vol. Vous l'aurez donc compris, impossible d'aller dans l'espace sans avoir une formation réussie dans les métiers de l'air. Déjà avec tout ça, votre tête devrait être bien pleine. Mais je vous ai aussi dit qu'elle devait être bien faite. Alors vous devrez passer une batterie de tests psychologiques pour déterminer si vous êtes à même de supporter la pression ou encore le stress, car un vol dans l'espace, c'est loin, mais alors très loin d'être de tout repos. A titre indicatif, si on prend l'exemple de Thomas Pesquet, il réunissait tous ses critères d'excellence et a réussi un des concours de l'ESA. Il a été sélectionné en 2009 avec 5 camarades sur quelques 8400 candidats déjà bien triés. Ah, et puis j'avais oublié de vous préciser que ces concours sont également rarissimes. Et oui, c'était seulement la quatrième fois que cela arrivait, après 1978, 1991 et 1998. Bon, bah avec tout ça, j'ai plus qu'à vous souhaiter bonne chance. En tout cas, si vous n'avez pas eu la chance d'aller un jour dans l'espace, sachez que la musique qui va suivre, eh bien elle l'a eu cette chance. Johnny B. Goode de Chuck Berry a en effet été envoyé dans l'espace par la NASA à destination de potentiels extraterrestres et avec un mode d'emploi pour la lyre.
Learned
Chuck Berry et son titre Johnny B. Goode que vous venez d'entendre en direct sur Radio Campus. La matinale animée par les étudiants de l'Académie ESG Lille se poursuit et Juliette Le Chevalier prend maintenant la main pour son micro confiné. Elle vous a interrogé sur vos connaissances en matière d'espace.
Allô, je vous entends mal.
Vous pouvez répéter la question?
Ici Houston, vous pouvez répéter?
Houston, on a un problème.
C'est parti pour le micro confiné sur Radio Campus.
Est-ce que tu sais ce que c'est que l'ISS?
Non, pas du tout.
C'est la Station Spatiale Internationale?
Aucune idée.
Une station dans l'espace, un truc comme ça.
Ah, j'avoue, c'est pas Station Internationale.
Et est-ce que tu sais à quoi ça sert et c'est quoi l'objectif de cette station spatiale?
Je pense que ça sert à explorer l'espace.
Non, je sais pas du tout à quoi ça sert.
À relier le monde.
Bah ouais, il y a tous les scientifiques du monde qui sont dans la même... station spatiale,
hein. C'est la Station Spatiale Internationale, donc c'est l'abréviation de ces trois mots-là. C'est une station qui a été mise en orbite pour réaliser des travaux scientifiques, des expériences scientifiques, et qui est née d'une coopération internationale. Donc il y a, je crois, les États-Unis, l'Europe, et peut-être même la Russie, les Chinois, mais ça, j'en suis plus très sûr.
Est-ce que tu sais qui a été le premier homme à être sorti dans l'espace?
Gagarin,
je vais dire celui qui a marché sur la Lune, donc Armstrong, mais du coup, pas sûr qu'il soit le premier à être allé dans l'espace.
Le premier qui a été en vol orbital, c'était Gagarin, et après, ça a enclenché évidemment la course avec les Américains, de toute façon, on est en pleine guerre froide, et le premier qui est sorti, je me rappelle plus du programme, si c'était Mercury ou autre chose, ou Gemini, je sais plus. Il y a eu un Américain, effectivement, qui a fait une sortie extravéhiculaire.
Et qui a été le premier homme à poser un pied sur la Lune?
C'est Neil Armstrong.
Neil Armstrong!
Et c'était le 21 juillet 1989?
Non, je sais plus. Oui, c'est Armstrong. Lors du vol d'Apollo, alors que je dis pas bêtise, c'est Apollo 11, le 21 juillet 69.
Est-ce que tu sais à quoi servent les satellites?
Faire passer les ondes,
Enfin, on les utilise par exemple pour les données GPS, etc., pour nous localiser sur Terre, non? Je sais pas.
Après, on peut envoyer des messages et tout grâce aux satellites dans le monde.
Si je réfléchis un peu, je pense que je peux trouver, mais là, sur le coup. Peut-être à recueillir des données sur la Terre, la météo, les ondes pour se servir des téléphones, tout ça.
Ça permet de prendre des informations sur la Terre et ce qui se passe un petit peu autour.
Ça sert à toutes sortes de choses, ça dépend. T'as des satellites de communication, de météo, des satellites scientifiques, un peu tout en fait. T'as des satellites qui vont prendre des images radar de la couche nuageuse pour pouvoir faire les prévisions météo. Tu as évidemment des satellites militaires, des satellites d'observation. Il y a toutes sortes de satellites en fait. Après, ça peut être des télescopes aussi. Donc on connaît tous Hubble, mais il y a d'autres télescopes qui observent dans d'autres longueurs d'onde que l'optique. T'as des télescopes qui observent dans l'infrarouge, des télescopes qui observent les étoiles dans l'ultraviolet, etc., dans les rayons X et gamma. Donc il y a toutes sortes de satellites, en fait.
Est-ce que vous savez qui est Thomas Pesquet?
Ah oui. Du coup, c'est un astronaute français.
Un astronaute. Qui est allé 6 mois dans une station spatiale.
Il est resté plusieurs... Enfin, je sais plus si c'était un an ou plusieurs années dans l'espace, dans une station. Quand il est arrivé... Il y a tout le monde qui était grave content de le revoir et il est arrivé, excuse-moi l'expression, mais comme une nouille, parce qu'il avait perdu quasiment tous ses muscles à partir dans l'espace, parce que c'est vrai qu'on perd beaucoup de masse corporelle là-bas.
Il a fait des travaux pour lesquels il a été envoyé là-haut, toutes les expériences, ça reste un scientifique aussi. Je crois qu'il a fait un livre avec pas mal de photos prises depuis la station internationale, parce que maintenant il faut savoir qu'elle a aussi un petit module qui permet d'avoir une vue presque à 360 degrés. Presque entièrement vitré. C'est un truc assez sympa.
Merci Juliette et merci à tous ceux qui nous ont répondu ce matin. On reste dans le thème avec Gérard Palapra et son titre « Un homme a disparu dans le ciel ».
Tour de contrôle à fusée.
tir. 3. Compte à rebours terminé. 3. Race.
Vous serez seul dans les
étoiles
glacées.
Будьте осторожны.
Les étoiles jouent le rôle de perles d'oubli au cœur d'un roi qui se languit. Et je ris très fort, j'ai très peur, je revis. Mais seul dans ma boîte de conserve, seul je m'endors dans un monde fou et j'en oublie jusqu'à. J'aperçois le vieux saule qui nous cachait la maison du bateleur. Dites à ma mère que je l'aime, mais j'ai peur.
Avec nous sur Radio Campus. Si vous nous rejoignez, on parle conquête spatiale ce matin. Et à ce propos, il y en a partout en France et très nombreux sont ceux qui ignorent leur existence. Les clubs d'astronomie permettent aux passionnés de se réunir entre eux pour profiter de la beauté du ciel. Théo Varnier s'est entretenu avec Philippe Sénicourt, membre du club du Dunkerquois, pour vous éclairer sur ces organisations.
Tout de suite, l'invité avec Radio Campus.
Vous êtes fan d'astronomie, donc tout d'abord, comment est née cette passion?
Cette passion, elle est née il y a très très longtemps, quand j'étais tout petit déjà. Donc ça a commencé par regarder en fait le ciel, regarder les avions, regarder les fusées, et après on est arrivé comme ça, direct à l'astronomie, grâce aux événements comme les nuits des étoiles, qui se passaient dans ma ville quand j'étais petit. Donc j'allais souvent, chaque année c'était mon rendez-vous, j'allais les voir. Ça se cultive comme ça en fait, voilà.
Comment elle se traduit encore aujourd'hui? C'est ça, c'est en allant voir des nuits des étoiles?
Donc... Alors elle se traduit j'en ai fait mon métier, donc je suis animateur de planétarium, donc c'est devenu mon métier, c'est aussi m'occuper d'une association en étant président. Après j'ai changé un peu de place, là je suis devenu en fait trésorier du club d'astronomie d'Aquerquois. Et ça c'est en participant à une association, en aidant les personnes qui souhaitent justement qui souhaitent aussi faire de l'astronomie, en les aidant, en les dirigeant vers du matériel qu'ils voudraient acheter, ou en les dirigeant justement aussi vers l'observation du ciel, comment reconnaître les constellations, tout ça. Donc ça se vit comme ça vers les temps libres, et là aussi j'ai la chance d'en faire aussi mon métier.
Oui, car du coup ça revient sur la question que je voulais vous poser. C'est que, bah oui, pour beaucoup, c'est juste observer le ciel, mais j'imagine qu'il y a plein de documentaires à regarder, des bouquins.
Et... ouais, il y a plein de choses. Alors, il y a de plus en plus de documentaires qu'on peut retrouver sur les plateformes de streaming. Voilà, je ne me souviens plus des titres de ces documentaires, mais il y en a plein. Il y a la série Cosmos, il y avait l'univers aussi, la série L'univers. Enfin, il y en a beaucoup, même maintenant sur Internet, sur YouTube. Enfin, on va rencontrer beaucoup de personnes qui vont faire justement des vidéos sur l'astronomie. Mais ça, c'est le côté, ben, on va dire, le côté quand il fait moche, quoi. On a toujours quelque chose qu'on peut faire, observer. Et après, ben, dès qu'il fait beau, ben, on peut sortir dehors, voilà, et commencer à observer les étoiles, commencer par les constellations. Et après, ben, on a envie d'acheter du matériel. On achète du matériel, on essaye de s'en servir. Et là, ben, on va commencer à observer ben, les objets de plus en plus. On va commencer par les objets les plus faciles à voir. Et après, au fur et à mesure, on va aller observer les objets de plus en plus difficiles à observer.
Vous faites partie du club d'astronomie, donc du Dunkerquois à Dunkerque.
Voilà, c'est ça. J'en suis le trésorier.
Bah, c'est très bien. Donc du coup, bah, expliquez-nous un peu donc, quel est le concept de ce club, quand est-ce qu'il a été créé, etc.
Ouais, le concept, c'est un club d'astronomie. Ça fait, il y en a énormément des clubs d'astronomie. On est peut-être même une région où il y a presque plus de clubs d'astronomie. Pourtant, on n'a pas souvent un bossé pour observer, mais on est à presque une vingtaine de clubs dans la région, ce qui est beaucoup. Sachant aussi qu'on a aussi des problèmes de pollution lumineuse, donc on ne peut pas voir tout ce qu'on voudrait voir. Donc ce club, il existe depuis 2003. Donc ça va faire déjà un bon nombre d'années qu'il existe. Moi, au sein de ce club, donc, je suis trésorier, je m'occupe des finances. Et au club d'astronomie, ce qu'on fait surtout, c'est on essaie de se réunir au moins une fois par mois pour avoir une réunion. Durant cette réunion, ben, on va voir les petites infos astronomiques, voilà, sur les observations qu'il y a à faire, sur les découvertes qui a eu lieu. Et ça, c'est pour la première partie. Et en deuxième partie, on aura souvent un membre du club qui va faire une sorte de petit exposé qu'il aura fait lui-même, donc sur n'importe quel sujet concernant l'astronomie, pour justement partager avec tout le monde. Comme ça, tout le monde peut s'enrichir, voilà, au niveau de l'astronomie. Parce qu'il faut savoir qu'au sein du club, on aura des personnes qui vont être plutôt bien calées dans l'astronomie. Et après, on aura vraiment les personnes néophytes.
Oui, donc c'est ça, donc, il est ouvert à tous, ce club.
C'est vraiment ouvert à tous. C'est le but, hein, de toute façon, c'est de s'ouvrir au plus grand nombre possible. C'est de ne pas rester entre nous. C'est une erreur que sans doute les clubs ont fait, c'est de rester entre eux. Mais le but, c'est de l'ouvrir à plus de monde possible. Parce qu'il faut savoir qu'un club, il doit vivre. Donc il faut qu'il y ait des adhérents qui rentrent dans l'association. Mais chaque année, on a aussi des adhérents, ben voilà, ils ne peuvent plus venir comme ils veulent à l'association, donc ils vont quitter le club. Donc il faut qu'il y ait une sorte de roulement comme ça pour que le club continue à vivre, justement.
Et une petite question sur l'association française donc d'astronomie. Est-ce qu'elle a une influence sur le fonctionnement des clubs en France? Est-ce qu'elle vous envoie des informations sur les événements à venir?
Alors elle va nous envoyer des informations, celle déjà qui va organiser les Nuits des Étoiles, donc nous on participe déjà à ça. Mais sinon, au niveau de l'association française, enfin, du point de vue de notre club à nous, comme elle est délocalisée, enfin, comme c'est une association qui est sur Paris, ça va beaucoup marcher sur les clubs qui vont être dans la région parisienne. Mais après, nous, comme on est extrêmement, enfin, on va dire qu'on est un peu plus éloigné, on n'a pas beaucoup de rapport avec l'association française. Bien sûr, on peut adhérer si on souhaite, mais nous, elle ne va pas nous apporter beaucoup. Nous, on essaye de se débrouiller par nous-mêmes. Alors, l'association française d'astronomie, elle organise des stages aussi, des stages petite étoile, ou de stages 1, 2 ou 3 étoiles qui permettent aux gens qui veulent, sur un week-end, sur une journée, se former à l'astronomie. Nous, on va aussi peut-être organiser des stages, mais ça va être surtout entre nous. Voilà, on va essayer de faire ça vraiment entre nous, de proposer, voilà, des fois on fait ça, d'ouvrir quelques stages, par exemple pour utiliser son matériel d'astro, à la population du Dakar, quoi.
Qu'est-ce que vous conseilleriez aux personnes qui auraient peur de se lancer, je sais pas, dans les clubs ou même dans l'astronomie, dans l'observation?
Il ne faut pas avoir peur, justement, d'aller rejoindre un club d'astronomie. Souvent, on va penser que dans les clubs d'astro, c'est des gens qui vont faire des maths, des calculs, des trucs pas possibles sur l'astronomie. Non, c'est pas ça du tout. Justement, il y a toujours une très bonne ambiance dans les clubs astro. Donc souvent, ce qu'on fait, c'est on est content d'avoir des personnes justement qui veulent nous rejoindre, qui sont totalement néophytes, parce que le but, c'est de faire partager aussi notre passion. Donc quelqu'un qui arrive, voilà, qui vient sans doute d'acheter une lunette astronomique ou un petit télescope, qui ne sait pas s'en servir, qui vient nous voir, et nous, on est super content de pouvoir l'aider justement à utiliser son matériel, ou vraiment peut-être même un jeune qui voudrait savoir comment ça se passe un club d'astro, qui voudrait comprendre un peu plus sur l'astronomie, on est content qu'il vienne, on l'accueille et on essaie de l'orienter sur ce qu'il faut faire, sur ce qu'il faut acheter, ou sur de la lecture, ou quand c'est des soirées d'observation, l'orienter justement dans le ciel en l'aidant à retrouver des constellations comme la grande ourse, la petite ours, l'étoile polaire ou différentes étoiles qui permettront à cette personne de comprendre le ciel et de se repérer facilement et ensuite d'évoluer beaucoup plus rapidement sur les techniques d'observation ou les techniques d'identification de constellations, d'étoiles ou tout ça. Et de aussi l'orienter vers ce qu'il aimerait peut-être observer, les objets du ciel profond, les galaxies, les étoiles, tout ça, ou plutôt aussi d'observer ou faire du planétaire, observer les planètes.
Merci au club d'astronomie du Dunkerquois d'avoir répondu à mes questions.
Et l'intégralité de cet entretien très intéressant réalisé par Théo Varnier sera à retrouver, tout comme l'ensemble de cette émission, en podcast sur le site www.campuslille.com. Direction la Lune maintenant avec Walking on the Moon du célèbre groupe de rock The Police.
Giant steps.
Et ça fait toujours du bien d'entendre The Police sur Radio Campus. Plus qu'une simple fascination, l'espace a pris une dimension politique importante depuis la Seconde Guerre mondiale. Dans sa chronique internationale, Mathis Chariot revient sur les conflits et les enjeux politiques liés à la conquête spatiale.
Emmenez-moi au bout de la terre. Tout de suite, la chronique internationale sur Radio Campus.
Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil.
L'espace constitue depuis toujours un enjeu de fascination et d'admiration. Pendant des milliards et des milliards d'années, les hommes ont eu à vue d'œil un environnement qui leur était inaccessible. Mais aujourd'hui, cette part d'inconnu fait partie du passé. Et l'espace n'appartient plus seulement à la science-fiction. L'homme a conquis la Lune et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. D'autant plus que maintenant, la conquête de l'espace est un réel débat de la politique internationale. Mais avant de revenir sur les enjeux actuels de la conquête spatiale, remontons un peu le temps. Après la Seconde Guerre mondiale, la planète est fracturée en deux. D'un côté, le bloc de l'Ouest, emmené par les États-Unis et leur modèle politique démocratique, et de l'autre, le bloc de l'Est, avec en chef de file l'URSS et sa politique communiste. Et pendant plus de 40 ans, les superpuissances russes et américaines vont se livrer un véritable bras de fer afin d'affirmer leur domination sur la planète. Mais plutôt que de se livrer un combat armé, c'est via leurs progrès économiques, culturels et scientifiques que les deux pays vont vouloir affirmer leur puissance. Et la conquête spatiale va alors devenir l'objet de toutes les convoitises au cours de cette guerre froide. Car dans les années 50, l'espace constitue encore une véritable inconnue, et Russes comme Américains rêvent de s'y imposer. Et oui, la course à l'espace est alors lancée. En 1957, ce sont les Russes qui frappent les premiers, en envoyant dans l'espace Sputnik 1, qui devient le premier objet satellisé par l'homme. Mais plutôt que d'avoir une véritable utilité scientifique, ce lancement permet surtout à l'URSS d'exposer sa puissance au monde entier. Et les Russes ne s'arrêteront pas là. Ils seront ensuite les premiers à envoyer un animal puis un homme dans l'espace. Des exploits qui auront un retentissement mondial et qui feront de l'URSS les pionniers de la conquête spatiale. Face à ce rayonnement russe dans le domaine spatial, Kennedy et les USA vont alors se sentir obligés de réagir. Ils vont décider d'investir en masse dans la conquête de l'espace, et raison leur sera donnée en 1969, lorsque Neil Armstrong devient le premier être humain à fouler la Lune. Un événement spectaculaire et extraordinaire qui sera relayé en direct à la télévision dans le monde entier et qui permettra aux USA de s'imposer comme le leader définitif de la conquête spatiale. Cependant, les efforts économiques consentis pour réaliser de tels exploits vont rapidement freiner les ardeurs russes et américaines, et la présence humaine dans l'espace va se faire de plus en plus rare. Mais alors, où en est-on aujourd'hui ? À ce jour, l'espace est peuplé de plus de 2630 satellites en orbite autour de la Terre. Ils servent principalement à assurer les télécommunications sur Terre et avoir un aperçu constant et général de notre planète. Au-delà de la Russie et des États-Unis, ce sont 11 pays qui ont lancé leurs propres satellites. On y retrouve notamment la France, le Royaume-Uni, la Chine ou encore l'Iran. Outre l'expansion des satellites, une station spatiale internationale a été créée en 1998. En orbite autour de la Terre, elle est continuellement habitée par 6 astronautes qui peuvent y rester entre 3 et 6 mois. L'objectif de ces stations est de pouvoir observer les effets de l'absence de pesanteur sur l'être humain et de réaliser de nombreuses expériences scientifiques. Mais son prix faramineux de 150 milliards de dollars pose aujourd'hui question quant à sa nécessité. Avant de conclure, comment ne pas évoquer les projets récents de retour sur la Lune ? En effet, ces dernières années, le projet de conquête lunaire semble avoir retrouvé des couleurs. Chine, Europe, Russie, Japon, mais surtout États-Unis projettent d'y reposer les pieds. La raison ? Les études des roches rapportées de la Lune par les missions Apollo ont révélé la présence de ressources qui pourraient être utilisées sur Terre. Et parmi elles, l'hélium 3 pourrait permettre de produire une énergie nucléaire plus propre et en plus grande quantité. Affaire à suivre donc. Mais les problèmes économiques et organisationnels de telles missions risquent tout de même de compliquer les choses. Vous l'aurez donc compris, après une période de transition, la conquête spatiale semble relancée. Et les projets sont de plus en plus ambitieux. Dernière folie en date, le projet SpaceX, qui ambitionne d'emmener l'homme sur Mars. Mais les incertitudes quant à un tel voyage sont encore bien trop importantes, notamment en ce qui concerne la sécurité des astronautes.
Merci beaucoup Mathis, et on reste dans l'univers, puisque c'est le nom donné au duo entre Nekfeu et Vanessa Paradis.
Dans l'une.
l'univers, y'a des milliards de vies sur Terre, 7 milliards d'êtres humains, peut-être 3 milliards de filles, mais c'est toi que je veux.
T'es obsédé par le vide et je déteste ton mode de vie. Et puis t'as par le vice, mais c'est toi que je veux.
Y'en a plein, mais y'en a qu'une, c'est toi.
Je sais des choses que tu ne sais pas.
Je sais qu'on serait même pas heureux ensemble.
Nous sommes de ceux que la rancune sait pas.
Pourtant, dans l'univers, y'a des milliards de vies sur Terre, 7 milliards d'êtres humains, peut-être 3 milliards de filles, mais c'est toi que je veux. T'es obsédé par le vide et je déteste ton mode de vie. Et puis t'as ta part de vice, mais c'est toi que je veux. Y'en a plein, mais y'en a qu'une, c'est toi.
Je sais des choses que tu ne sais pas.
Je sais qu'on serait même pas heureux ensemble.
Nous sommes de ceux que la rancune sait pas.
Et même si notre amour raté devait renaître demain, elle m'a dit jamais je ne remettrai mon cœur entre tes mains. Jamais, jamais, n'oublie pas que quand tu l'avais, tu ne m'as laissé que du mal-être et des marques. On était jeunes, on pensait que s'aimer c'était se traiter mal. Pourtant dans l'univers, y'a des milliards de vies sur Terre, 7 milliards d'êtres humains, peut-être 3 milliards de filles, mais c'est toi que je veux. T'es obsédé par le vide et je déteste ton mode de vie. Et puis t'as ta part de vice, mais c'est toi que je veux. Y'en a plein, mais y'en a qu'une, c'est toi.
Je sais les choses que tu ne sais pas.
Je sais qu'on serait même pas heureux ensemble.
Nous sommes de ceux que la rancune sait pas.
On se dégoûte, on se combat jusqu'à ce qu'on bouffe les pissenlits. Notre couple succomba, ce désir puissant puis s'ennuie. Et le désir disparaît en même temps que la possession. Et les femmes de ma vie défilent en une étrange procession. J'y passerai seule la nuit sous le trait d'un jeune homme entier. Quand la lune dort, le soleil lui, moi je ne vois qu'elle. Dans l'univers, y'a des milliards de vies sur Terre, 7 milliards d'êtres humains, peut-être 3 milliards de filles, mais c'est toi que je veux. T'es obsédé par le vide et je déteste ton mode de vie. Et puis t'as ta part de vice, mais c'est toi que je veux. Y'en a plein, mais y'en a qu'une, c'est toi.
Je sais les choses que tu ne sais pas.
Je sais qu'on serait même pas heureux ensemble.
Nous sommes de ceux que la rancune sait pas.
Unis par cette danse que ta lumière peut apprendre à mon ombre. Un jour tu me donneras ton oui et tu prendras mon nom. Un jour tu me donneras ton oui et tu prendras mon nom.
Toujours sur Radio Campus, fréquence 106.6 FM, à écouter en DAB+, dans toute la métropole lilloise ou bien partout ailleurs, sur www.campuslille.com. Tout de suite, on fait un bond en arrière pour s'intéresser de plus près au premier voyage d'un être vivant dans l'espace. Thomas Fraise décrypte le choix soviétique d'envoyer une chienne hors de l'atmosphère en 1957.
Espace, URSS, animal. C'est l'heure de la chronique Laïka sur Radio Campus. Pensez-vous que l'être humain est l'animal le plus brave, le plus courageux sur Terre? Essayons-nous vraiment de respecter le bien-être animal lors des avancées scientifiques et technologiques? Ces questions sont cruciales aujourd'hui, malgré les enseignements passés. On pense tous aux fameuses souris de laboratoire, aux tests de médicaments sur les animaux. Mais lors de la course à l'espace, l'objectif était d'envoyer un animal avant l'homme. On va donc se pencher de plus près, dans cette matinale 100% spatiale, sur le voyage de Laïka, le premier être vivant envoyé dans l'espace. Zoom sur son entraînement, son vol, et puis sa mort. Mais avant toute chose, replongeons-nous au cœur de la guerre froide. Les Soviétiques, emmenés par Nikita Khrouchtchev, se lancent dans un combat acharné de l'espace. Qui sortira en premier de l'atmosphère? Qui ira en premier sur la Lune? L'URSS voit les choses en grand et espère contrecarrer les plans américains. C'est ainsi que le 4 octobre 1957, le monde se tourne vers Baïkonour, le site d'un lancement des fusées soviétiques. L'URSS envoie le premier satellite artificiel en orbite, Sputnik 1. Une grande réussite.
Et brusquement, on apprenait que le satellite russe avait commencé sa ronde extraordinaire.
Fort de ce succès, le chef de l'URSS Nikita Khrouchtchev décide de passer à l'étape supérieure, envoyer un être vivant dans l'espace. S'organise alors une recherche de petites chiennes abandonnées ou par volontariat des maîtres. Pourquoi des chiennes, vous allez me dire? Car elles peuvent uriner assis et prendre ainsi moins de place. Laïka est trouvée dans les rues de Moscou, elle est une croisée de 3 ans, pesant environ 6 kg. Pour elle et pour tout un tas de jeunes chiennes, débute alors un entraînement intensif sous la houlette de Oleg Kassenko. Privation de nourriture, isolement, tests nerveux, etc. Le but est de trouver la chienne la plus calme, la moins agitée, la moins stressée et la plus résistante. Laïka est choisie, son lancement est prévu le 3 novembre 1957, soit 30 jours après le succès Sputnik 1. Laïka embarque dans une sonde de forme conique appelée Sputnik 2, non pas le 3 novembre, mais le 31 octobre 1957. Elle est laissée 4 jours entiers dans une sonde, lui laissant à peine l'espace de s'asseoir, et tout cela sous haute surveillance médicale. Pour les scientifiques, la chienne devait vivre jusqu'à la mise en orbite, mais n'avait aucune intention de la faire revenir en vie. Ils avaient même placé de la nourriture empoisonnée afin de la tuer calmement avant la désintégration de l'appareil. Le 3 novembre, Sputnik 2 s'élance, mais tout ne se passe pas comme prévu. Lors de sa mise en orbite, le satellite ne se sépara pas des réacteurs, faisant augmenter drastiquement la chaleur dans l'habitacle. Le stress monte à Baïkonour, la chienne ne survivra pas longtemps. Dans la sonde, la chienne est dans un état de stress intense, la température avoisine les 50 degrés. Laïka ne donna aucun signe de vie après 5 heures de vol. L'appareil se désintégra 6 mois plus tard, en avril 1958. Avant 2002, les soviétiques se vantaient du succès et du sommeil allongé de la chienne. Sûrement en vertu du secret diplomatique soviétique, Sputnik 2 fut vu comme un succès où aucune maltraitance animale était véridique. En 2002 cependant, un scientifique issu du programme Sputnik 2 affirme que la chienne est morte en pleine conscience sous l'effet de la chaleur. Ce meurtre représentait le pire choix de sa carrière selon ses dires. Laïka fut le premier et le dernier être vivant à être envoyé sciemment dans une exécution spatiale sans possibilité de retour. Maintenant, vous comprenez l'importance des tests animaux avant l'envoi d'êtres humains. Imaginez-vous vraiment un meurtre d'un cosmonaute passé inaperçu pendant 48 ans ? Impossible. J'espère que vous en avez appris grâce à moi, et maintenant, je vous laisse avec l'équipe.
Merci beaucoup, Thomas, de nous avoir fait revivre ce moment historique. On écoute Indochine maintenant avec leur célèbre chanson « J'ai demandé à la Lune ». Indochine à l'instant sur Radio Campus. Nous arrivons bientôt au terme de cette matinale, mais il nous reste encore le moment tant attendu des conseils pratiques. L'espace et l'infini ont inspiré de nombreux artistes et auteurs. Marius Veyro nous dresse une petite liste des œuvres à dévorer pour rythmer son confinement ou tout autre moment.
Bonjour à toutes et à tous. Place à la leçon du jour, combattre l'ennui grâce à l'espace. Si nous n'avons pas les moyens de vous envoyer sur la Lune physiquement, nous allons vous proposer de voyager en apesanteur depuis votre cerveau. La Voie lactée fait rêver. Elle inspire les artistes et les réalisateurs. Voici donc une liste d'œuvres à voir ou à redécouvrir. Le confinement est souvent associé à l'ennui, à la solitude dans le pire des cas. Dans ces moments-là, pourquoi ne pas s'offrir un compagnon de galère, quelqu'un à qui s'identifier ? Eh bien, Mark Watney, astronaute envoyé sur la planète rouge, à la tête de l'emploi. Interprété par Matt Damon, il est le héros du film Seul sur Mars. Bon, passer 2h30 à regarder un pauvre gars errer sur une planète déserte, ça ne fait pas forcément rêver, mais Ridley Scott est parvenu à intégrer du suspense à l'histoire, tout en étalant la débrouillardise d'un personnage condamné à faire pousser des patates sur Mars pour survivre. Enfin, si vous n'êtes pas convaincu, il faut peut-être mieux vous promettre plus de frissons. Pour cela, on a retourné notre bibliothèque pour y retrouver 172 heures sur la Lune, le bouquin de Johan Arstadt. L'écrivain norvégien a imaginé un monde où la conquête spatiale est restée appuyée sur pause depuis 1969 et les fameux petits pas de Neil Armstrong. L'histoire se déroule en 2018. La NASA lance une grande loterie pour désigner les trois nouveaux élus qui iront fouler la Lune. Seulement, si l'astéroïde avait été délaissé, il y avait sûrement une raison. Celle-ci va vite apparaître comme un dangereux miroir horrifique. Mais bon, s'il est sueur froide, tout seul dans son appart, c'est pas trop votre truc. Vous préférerez sûrement faire fonctionner vos méninges. Appelons donc à la barre Christopher Nolan, dynamiteur de neurones en chef, et son film Interstellar. Comme souvent, les humains ont fait n'importe quoi et sont rejetés par Mère Nature. L'idée est alors de trouver une planète refuge pour sauver l'espèce humaine. Le réalisateur va nous tenir en haleine du début à la fin, et notamment les plus logiques et les plus scientifiques d'entre nous. Nolan, comme à son habitude, manie l'espace et le temps, mais il va également exploiter la science associée à l'espace. L'astrophysicien Kip Thorne a participé à la mise en place du scénario. Amis amateurs de relativité générale, de tesseract, de trous de ver et de trous noirs, vous serez servis. Pour finir, on vous propose pêle-mêle quelques autres livres et documentaires à dévorer. Une brève histoire du temps, écrit par Stephen Hawking. Les travaux d'Aurélien Barraud, dont les cours magistraux sont à retrouver sur YouTube. Tout comme La magie du cosmos, documentaire produit par Arte. Allez, sur ces promesses de découverte de l'infini, il est temps de redonner la parole à Naël. Bonne journée étoilée à tous.
Mes chers auditeurs et auditrices, j'ai le regret de vous annoncer que notre voyage touche à sa fin. Le tour de la galaxie se termine alors que nous ne sommes plus qu'à quelques kilomètres de la Terre. L'ensemble de l'équipage et moi-même vous remercions pour votre écoute et espérons que vous aurez apprécié cette émission. Merci également à Eloi, Adrien, Anaïs, Juliette, Théo, Mathis, Thomas et Marius pour leur créativité et leur implication dans cette matinale. L'ensemble de celle-ci est d'ailleurs à retrouver dans son intégralité en podcast sur le site internet www.campuslille.com. Rendez-vous demain, même heure, même endroit, toujours sur la 106.6 FM pour la matinale des étudiants de l'Académie ESJ Lille. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée à l'écoute de Radio Campus.
Hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
heart with song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words,